Un conseil, madame, un conseil, monsieur.
Le mardi.
Manger, manger sain, manger frais, manger...
de la culture.
Car il faut manger, manger, manger les radis. Avant que ce soit les radis qui nous mangent. Il faut manger, manger, manger les radis. Et des tas de laitues et des tonnes de pissenlits.
Ne vous découragez pas, ne vous impatientez pas. Bientôt vous serez amené à la salle d'accouchement où votre médecin vous attend.
Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou. Le bruit des bisous.
Mardi.
Bla bla bla. Bonjour messieurs, dames, Divergence FM 93.9, un nouveau mardi, François, ici même, c'est notre rendez-vous mensuel en plateau sur Divergence FM. Une fois par mois, on se retrouve pour un agenda culturel plus ou moins exhaustif en lien avec notre partenaire presse Let's Motive.
Particulier.
Partenaire particulier représenté par son rédacteur en chef Ludovic Deleu, mais aussi par d'autres rédacteurs comme Alex, dit Alex la Terreur. François, de quoi va-t-il être question aujourd'hui ?
Oh, il va être question de téléphone portable, de films, il va être question de carte blanche sétoise, il va être question aussi, que je ne te dise pas de bêtises, de Sporto Contes et de leurs magnifiques recettes de cuisine. Sporto Contes, ils ont des goûts culinaires extrêmement...
Oui, enfin, Tati Hélène a réussi
enfin,
à faire son interview.
Il sera question aussi de Raymond Depardon, de... Il sera question de trucs dont on nous parlera à l'extérieur, je sais pas. Et on recevra en fin d'émission Frédéric Saccard du Théâtre de la Vignette qui nous parlera de
Will you ever be happy à la Vignette.
À être heureux.
Exactement. Mais pour commencer, comme à l'habitude, c'est la première exclue Let's Motive musicale et c'est Ludo qui la présente.
Ouais, c'est Juan Rosoff. Juan Rosoff, c'est un gars qui parle à pas mal de gens il y a plutôt 10-12 ans. Petit prince du funk.
Un vieux de la vieille, ouais.
Un vieux de la vieille qui s'est fait oublier pas mal d'années, qui a eu des petits soucis personnels, qui a fait que 3 albums en 12-13 ans.
C'est une répute de bête de scène monstrueuse.
Et qui sort un album le 18 novembre. Bon, alors c'est le petit prince parce qu'il est petit, mais aussi parce qu'il ressemble sacrément à Prince. On écoute Intoxicated, vous allez voir.
Vas-y Manu.
Baby,
I'm gonna ask it to your heart. You know, love's in your eyes. Right from the start, from the start. Bring up the beat back. Don't wanna hear about your problems. Don't wanna hear about your sorrow. Just wanna see you laugh again.
Allez, si on chantait un peu.
Ah, c'est très princier. Hein,
c'est très extrêmement princier. Tout l'album n'est pas comme ça. D'ailleurs, je disais hors micro, mais je vais le dire dans le micro. Le disque est un peu décevant. Ça s'appelle Maison Rosov, son troisième. Il reste quand même des bons morceaux dessus. Il faut l'écouter un peu. Après, ça dépend des goûts, évidemment, comme toujours pareil.
Belle prod,
il y a pas mal de balades. Il y a Belle Prod, Marlon B à la production, quelques invités, très bons musiciens derrière. Quand même, quelque chose de très respectable. Juan Rosov, le 18 novembre dans les bacs.
Et qu'on retrouve dans le dernier Leitmotiv.
Et non.
C'était bien tenté.
Comme
ça,
quoi.
Hein. Ça, c'est la magie.
On écoutera d'autres
exclus.
Ce
sont les vrais exclus.
Exactement.
De
Ludo. Donc, justement, le
les
prochain.
Personne d'autre que nous.
Ludovic, aujourd'hui, est un petit peu fatigué parce que tu sors du bouclage du numéro de novembre de Leitmotiv qui sortira
d'ailleurs,
dans les bacs.
D'ailleurs, preuve à l'appui. Hein, je vous l'ai envoyé à 4h du matin.
Exactement.
Quand on l'a fini, ouais, cette nuit.
Et là, il est en impression, tout chaud, et il partira vendredi.
Il sortira vendredi.
Contaminé comme ça, tout le Languedoc-Roussillon et les Bouches-du-Rhône et tout ce grand sud comme ça.
Oui, c'est ça, tu as tout dit. Tout à fait.
Exactement, à ma gauche, Franck Berger, qu'on a déjà reçu ici sur Divergence plusieurs fois. On l'aime beaucoup parce qu'il est sympathique, il a un beau sourire, il aime
c'est
sortir. Exactement, c'est la maison. Et outre tout ça, il est surtout directeur, non, responsable du service culturel du CROUS de Montpellier.
Exactement.
Un CROUS, à chaque fois on le dit, un CROUS extraordinaire qui en France n'a aucun égal parce qu'il y a une salle
une
de
dynamique
spectacle,
d'équipe, quoi,
le Trioletto, que vous gérez. Et dans ce Trioletto, le 25 novembre, un nouvel événement, le Festival Pocket Film.
Alors, enfin, c'est plutôt une carte blanche au Festival Pocket Film. En fait, la soirée, on l'a appelé donc mon téléphone est une caméra. On a cherché, on a essayé de trouver plein de noms, mais on a toujours envie, ça a toujours le problème de la com. Maintenant, faut être clair, on a toujours peur que les gens ne comprennent pas. Et donc, on a appelé donc mon téléphone est une caméra. Donc, la thématique est simple.
Je comprends pas, ça veut dire quoi ?
Je t'explique, je suis là pour ça. Donc, c'est simple, c'est donc, le Pocket Film que tu as cité. Donc, c'est un festival qui existe à Paris maintenant depuis 5 ans, qui sont à 5 éditions, qui est donc organisé au Forum des Images et qui s'intéresse donc aux films créés par téléphone portable, tout simplement. Et donc, ça fait plusieurs années qu'ils interrogent, on va dire, ce média, cette forme-là, cette création. Et donc, comme souvent, on essaie de le faire, nous, au Trioletto, c'est de s'appuyer sur, finalement, des gens qui ont la compétence et l'expérience, plutôt que d'essayer de réinventer des choses. Tout simplement de rentrer en contact avec ce festival et leur demander, bonjour, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble sur cette thématique-là. Et donc, on va passer une journée à tant pratiquer que voir ce que peut être, en fait, cette nouvelle manière de filmer avec un outil que finalement, en effet, tout le monde a dans sa poche ou au bout de la main ou contre son oreille.
Alors voir, c'est-à-dire vous allez montrer, diffuser une sélection de films qui ont déjà été projetés dans ce festival parisien.
Exactement. En fait, ça se passe en deux temps. Donc, un premier temps, c'est l'après-midi. Donc, je passe un appel. Donc, il y aura Benoît Labourdette, donc, qui est à la fois créateur et coordinateur de ce festival. Donc, qui descend. Et donc l'après-midi avec lui, on monte un atelier, donc ouvert à une quinzaine de personnes, pour créer un film durant une après-midi. Et lui donc sera là pour accompagner, donner, présenter, savoir comment on peut travailler avec cet outil. Et donc c'est un atelier donc, qui va durer 4-5 heures, le temps d'aller faire des prises. Et le soir, donc à partir de 20h30, c'est en entrée libre. Là, il y a une diffusion donc, d'une sélection de films que Benoît Labourdette est en train de nous concocter. Et grosso modo, le principe, quand on a discuté ensemble, moi, ce que je lui ai demandé, c'est que ça soit à la fois représentatif, évidemment, de ses 5 ans d'expérience, mais aussi de montrer que par ce biais-là, par cet outil qui est le téléphone, finalement, on peut voir toute forme de cinéma, que ça soit du côté plus clip, ou que ce soit de l'expérimental, ou carrément une fiction vraiment montée. Qui est donc que ça soit révélateur finalement de toutes les esthétiques possibles et surtout que ça soit aussi révélateur de la particularité de cet outil, de ce médium. Donc, il est en train de concocter cette sélection actuellement.
Donc, j'imagine que c'est pas simplement des films comme ça qu'on prend d'un tenant comme un travelling. Il y a aussi un travail de montage qui est fait et pour arriver à faire un film.
Il y a
qui...
tout. Il y a voilà. de tout.
D'accord.
Il y a de tout. Il y a des travelling, il y a des scènes prises sur le vif dans le métro, à des endroits. Il y a des films qui sont beaucoup plus sophistiqués, à savoir que avec du montage, avec de l'incrustation vidéo dessus. Le principe étant de partir de prises de vue réelles avec son téléphone. Après, tout est faisable. Et on voit du coup avec le développement des nouveaux téléphones, les objectifs et les capacités de mémoire aussi en fait, puisque c'est un réel problème du son et avoir du son et de l'image sur un film. Ça oui. prend beaucoup de place. Donc voilà, oui.
Mais en quoi on voit que les images sont issues d'un téléphone portable ?
Elles sont signées. Toute image numérique est signée, donc tu peux retrouver l'appareil qui l'a produit.
Okay,
tu peux
pas tricher. Pas,
voilà, tu ne vois pas à l'écran, ça.
Non, ouais, mais là, c'est super
tu vois pas à l'écran, mais dès que tu le rentres dans un support informatique avec un logiciel à peu près correct... Tu sais exactement la quel source. Est le modèle de la machine.
Oui, mais bon, là, c'est un petit problème technique et je trouve que pas sincèrement important puisque à la rigueur, en fait.
Tu poses des questions.
Non, mais justement, c'est très intéressant ce que tu poses comme question parce qu'à la rigueur, en fait, ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que ça dégage des nouveaux moyens de narration, des nouvelles façons de raconter des choses, de montrer des choses. Et en soi, peut-être que, en soi, c'est pas tant l'aspect technique qui est important. Enfin, si quelque part, dans la confection, mais au final, peut-être que ce nouveau rapport à l'image peut être intégré dans la vieille image. Donc c'est tout l'enjeu finalement de je pense du Pocket Film Festival, c'est d'essayer de dégager en fait des nouvelles voies pour explorer l'image du futur tout simplement.
Alors justement toi Alex qui a justement couvert ce sujet pour le prochain Leitmotiv, est-ce que tu vois en ça une révolution qui pourrait être comparable à celle de l'arrivée de la caméra légère qui a permis l'émergence par exemple de la nouvelle vague?
Bah, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans, puisqu'il y a des artistes comme Julien Dundim, qui tient notamment le site Pocket Films for Travelers, donc qui s'amuse en fait à en faire des sortes de carnets, des néo-carnets de voyage, en fait.
Mais pour les travelots.
Non, pour les voyageurs. Il faudra que tu révises ton anglais. Hein,
voilà.
Et donc voilà, il y a des choses vraiment intéressantes. Et non, c'est vrai que on en est où là? Tu peux me répéter ta question parce que tu
je te demandais si quoi, du 44 ça... ou du 45. Donc je me
si,
tourne
si,
maintenant vers.
Non, mais s'il y avait quelque chose qui se dégageait vraiment, oui, je pense sincèrement, oui, parce qu'il y a vraiment de très beaux exercices. Souvent, on a droit à des petites pastilles d'une minute, une minute 20, une minute 30, qui sont vraiment étonnantes, des trucs pris sur le vif, et puis surtout des raccords d'images que font eux-mêmes les gens ensuite entre ce qu'ils ont pris comme ça et du coup l'articulation se fait après et il y a vraiment une sorte de vérisme à montrer les choses comme cela et après à les agencer comme elles sont.
Est-ce que selon toi c'est Franck c'est pas une forme de gadgetisation un petit peu?
Bah je sais pas si c'est un gadget, enfin juste moi je pense que ce que veut défendre justement le Pocket Film non c'est pas ça, parce que l'idée c'est quand même qu'il y ait une sélection, évidemment c'est comme tout outil, après suivant qui l'utilise ça va être plus ou moins pertinent ou à bon escient, mais en tout cas en même temps que le festival, donc tout l'intérêt de la présence donc de Benoît Labourdette pour répondre à ce genre de questions, donc ça venait ce que au moins il y aura une personne qui pourra répondre à ce type de questions, en quoi ça peut être révolutionnaire, et je mets ça entre quatre guillemets. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça interroge tant, bah, par exemple, la position ce qu'on a de la personne qui peut être à des moments tant acteur que spectateur. C'est toujours la facilité de l'accession à un outil, ce qu'il peut y avoir avec le numérique en général, pour le son, etc. Ça n'a pas toujours donné des choses intéressantes, mais ça bouscule les frontières, les normes, et ça ouvre, j'imagine, un certain nombre de perspectives.
Et ça redonne le droit aux gens, aux spectateurs, à le droit à l'image tout simplement.
On l'a vu François dans le dernier rapport des pratiques culturelles des Français qui vient de sortir, où justement une des choses très notables, c'est la montée en puissance de l'utilisation domestique du film. Ça fait partie des grandes lignes qui se sont détachées dans ces dernières années.
Oui, c'est clair. On arrive à un stade où la technologie telle qu'elle nous est livrée à un prix relativement modique est totalement libératoire pour ceux qui s'en emparent. C'est-à-dire que on est capable aujourd'hui, effectivement, Alex le disait, il y a des carnets de voyage faits avec des téléphones portables absolument magnifiques qu'on trouve sur le net, qu'on trouve qui circulent. Il y a des petits documentaires comme ça. Il y a aussi de l'image
très brute.
On sait très bien que le téléphone portable, ça sert aussi à faire du
slapping.
Non, puis à faire du reportage brut. Les Chinois n'arrêtent pas de filmer ce qui se passe dans leur rue.
Les images des émeutes en Afghanistan, enfin, on les a eues.
Bien sûr.
Donc on est vraiment
le tsunami
aussi
en Iran.
Merci. Franck. Le festival Pocket Film, Mon téléphone est une caméra, c'est le mercredi 25 novembre au Trioletto.
Pour l'atelier,
Il suffit simplement de vous passer un coup de fil au service culturel 04 67 41 50 09, 04 67 41 50 09, où vous venez nous voir. On inscrit les gens au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et après, ils ont tout loisir donc, de travailler toute l'après-midi.
Vous retrouvez tous les liens sur divergence-fm.org à la rubrique mardi, parce que c'est notre émission et qu'on met tous les liens, parce que nous sommes des bons élèves à Divergence. De Franck Berger à Rodolphe Burger, il n'y a qu'un pas. Qu'on passe avec ce morceau. Ce morceau extrait du spectacle de Mathilde Monnier-Pavlova, 3 minutes 23. Et Rodolphe Burger, il va en être question juste après ce morceau aussi, avec Yvan Tranchant, directeur de la scène nationale de Sète. Et on va évoquer cette carte blanche qui, tout au long de l'année au théâtre de Sète, va faire honneur à Rodolphe Burger. On écoute ça de suite.
Once upon a time, these friends loved each other very much. And they made a wall to stay together until they all attained enlightenment and lifetime. After lifetime, an endless rebirth, and doing practice, they all realized the absolute empty true nature of mind. They were so happy and overjoyed, they started dancing and dancing and danced. So happy, and a shocked recognition of emptiness and compassion, they kept on dancing, dancing, and dancing, and they danced away all their flesh and skin until there was nothing left but their bones. And they kept dancing in their bones, dancing, skeletons dancing, skeletons.
Rodolphe Burger, la partie musicale qu'il a créée pour Pavlova 323. Rodolphe Burger, c'est la carte blanche de la scène nationale de Sète. Et je crois qu'on a Yvan Tranchant au téléphone.
Oui, tout à fait, bonjour.
Salut Yvan. Comment ça va ?
Très bien. Bon. Très, très bien. Ravi de vous entendre.
Nous aussi. Cette saison, on démarre bien.
Oui, formidable. Bon. On a un rapport assez incroyable entre nos propositions artistiques, assez audacieuses, et le public. Voilà, ça c'est formidable.
Bon. On a voulu t'avoir pour évoquer cette carte blanche que tu as donnée, que la scène nationale a donnée à Rodolphe Burger, et dont le premier temps est en novembre.
Oui.
Comme on traite toute l'actualité de novembre. Alors, dis-nous un peu, c'est quoi une carte blanche d'abord quand vous donnez ça, et puis qu'est-ce que va faire Rodolphe Burger?
Oui, alors plein de choses. D'abord, c'est un voyage qu'on propose aux artistes et aux spectateurs, un voyage conjugué.
On t'entend plus, Yvan.
Vous m'entendez là?
Si.
Oui, je disais, c'est un voyage conjugué entre des artistes et des spectateurs pour mieux découvrir une démarche d'un artiste ou d'un groupe d'artistes, pour aller plus loin dans la compréhension d'un langage, de ce qui anime un artiste ou des artistes dans ses désirs de rencontre, de choses un peu improbables. Et Rodolphe est vraiment l'artiste, je trouve, un peu idoine pour aller dans des tas d'endroits musicaux, sonores, d'images, graphiques également, voilà, avec des tas de surprises. Bon, et on connaît son parcours depuis Catonoma jusqu'à maintenant. Ses projets solo ou ses projets avec conduits avec des tas de gens qu'on connaît bien, Bachou, Michelin, là il est en train de finir un CD avec Jacques. Mais nous on a trois projets, quatre presque, parce que sur le mois de novembre il y a deux projets en fait
qui
vont avoir lieu. Le premier le 24 novembre, au Centre chorégraphique national de Montpellier, chez Mathilde Monnier, où Rodolphe travaille sur une recréation d'un projet avec Pierre Alféri, romancier, cinéaste, qui est entre autres le fils de Jacques Derrida, et qui, à l'occasion, vont associer sur deux performances chorégraphiques le travail de Mathilde Monnier et Loïc Touzé. Donc voilà, c'est quelque chose d'important, extrêmement ambitieux, puisque on est vraiment à la jonction de boucles musicales et sonores avec un point de vue très très radical de Pierre Alféri sur l'image et le sens de l'image aujourd'hui tel que le concevait Godard ou Serge Danet dans les années 70. Voilà, je dois ajouter, parce que ça date d'hier, Rodolphe m'en a parlé hier soir, que ce projet-là va être présenté dans le cadre du prochain Festival d'Avignon 2010, donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour nous, bien évidemment. Et puis, la même semaine, le 24 novembre, Rodolphe va présenter un projet qu'il a créé... Va présenter un projet qu'il a déjà créé en janvier 2009 au Festival de la BD à Angoulême, avec son groupe, bien évidemment, et deux dessinateurs français prestigieux, puisqu'ils étaient eux-mêmes lauréats du Festival de la BD en 2008, c'est Philippe Dupuis et Charles Berberian, avec un invité prestigieux qu'on connaît bien, lui aussi goûteur et amateur de plein de croisements musicaux, Eric Truffaz.
Alors justement, quelle forme ça peut prendre, ça, de faire un concert de dessin? Comment on associe des dessinateurs?
Concert animé,
comment on associe des dessinateurs sur scène?
Eh bien, c'est vraiment un travail en live, c'est-à-dire que Berberian et Dupuis travaillent vraiment, font une partition graphique bédéiste sur chaque morceau proposé par Rodolphe. Donc il y a une part structurée, bien évidemment, mais il y a une grande part d'improvisation qui est laissée à l'initiative des deux dessinateurs sur les émotions, sur les ressentis qu'ils vont vivre durant ce voyage que propose Rodolphe. Donc il y a vraiment un travail de cœur qui se fait, j'ai envie de dire, entre les deux dessinateurs et l'équipe de Rodolphe, comme un concert de musique improvisée. Voilà. Alors il y a un cadre, bien sûr, qui structure le tout pour pas partir n'importe où et sur n'importe quoi. Mais néanmoins, il y a vraiment une part d'improvisation qui donne des rendus assez incroyables en termes d'images et de création graphique, de dessins animés, de bandes dessinées. On appelle ça concert de dessin. C'est assez étonnant. à voir. C'est très spectaculaire sur scène. Donc bien évidemment, on invite les spectateurs nombreux à venir voir ce travail.
Ah, ça sera au Théâtre Molière. Hein.
J'ai l'impression que c'est vraiment la façon de produire de Rodolphe Burger, c'est-à-dire à un moment donné poser un cadre et dans ce cadre-là trouver un champ de liberté ouvert à tous les possibles.
Ouais, c'est la marque de fabrique de Rodolphe, c'est-à-dire qu'il est sur un travail qui est à la fois très structuré, très cadré, très préparé et en même temps justement très préparé pour laisser la porte entrouverte à des voyages aventureux, inédits, audacieux, innovants, engageants et impliquants des musiciens ou d'autres partenaires. Je pense à des danseurs, ou je pense à des musiciens ouzbeks avec lesquels il a déjà travaillé et à plein d'autres. C'est un garçon qui est très curieux, qui a un désir de culture et d'ouverture artistique qui est assez incroyable. Je pense que c'est un des rares artistes qui nous permet d'aller dans des tas de contrées invraisemblables. C'est pour ça que outre la qualité et l'histoire de cet artiste de Katonoma aujourd'hui, il a fait ses preuves bien évidemment. Je pense que c'est un des grands compositeurs français d'aujourd'hui, mais toujours animé par cette flamme de recherche, de curiosité, de croisement. Je pense qu'il y a une excitation chez Rodolphe à essayer d'aller toujours au-delà de ce qu'il sait faire, de rester un petit peu sur le fil du rasoir avec ce qu'il sait faire et ce qu'il reste à découvrir.
Alors le croisement, on le retrouvera aussi quelques mois plus tard parce que la prochaine étape, c'est après ce mois de novembre assez chargé, c'est en mars que ça se passe, le 12 mars,
oui,
avec un double hommage.
Oui, alors le projet de départ reposait initialement sur l'avenue de Rodolphe, bien évidemment, avec son groupe, et l'avenue d'Alain Bachung et de sa femme, Chloé Mons. Bon, malheureusement, Alain est parti et il se trouve que Rodolphe a eu le temps d'enregistrer et de filmer, c'était lors du mariage d'Alain Bachung et de Chloé Mons, d'enregistrer à la demande d'Alain. D'ailleurs, il a établi une composition, il a créé une composition musicale sur des textes de la Bible, de l'Ancien Testament, 8 poèmes de l'Ancien Testament, adaptés par Olivier Cadio.
Le Cantique des Cantiques.
Le Cantique des Cantiques, qui sera d'ailleurs, Olivier sera artiste associé avec Marthe Haller au prochain Festival d'Avignon.
Oui, Olivier Cadio, un vieux compagnon de route
de
Rodolphe Burger.
C'est aussi une des caractéristiques de Rodolphe, c'est une grande fidélité à des tas d'artistes pluri et interdisciplinaires, avec lesquels il construit des parcours comme ça et des voyages sur des années. Et donc de ce projet, de cette composition musicale, est né un enregistrement prodigieux d'une poésie invraisemblable. Et on a décidé donc de présenter en film le Cantique des Cantiques. Ça dure 25 à 30 minutes. Et Rodolphe avait envie depuis très longtemps de croiser le monde hébreu avec le monde arabe. Il avait également envie depuis très longtemps de se confronter à l'univers littéraire et poétique de Mahmoud Darwish, ce qui va être fait puisqu'on travaille pas plus tard que la semaine prochaine avec Elias Sambar, qui est un des traducteurs attitrés de l'œuvre de Darwish, qui nous a quittés il y a pas si longtemps que ça. Et bien évidemment, va se monter un projet qui viendra en contrepoint, en miroir, je dirais, très pacifique et bien évidemment très artistique du Cantique des Cantiques, avec des musiciens étrangers. Je peux déjà vous donner un scoop parce que ça date d'hier soir. On aura un immense musicien algérien, Mehdi Adab, un joueur d'oud, mais c'est un rocker à l'oud, hein. Il sait tout faire. Et il y aura d'autres musiciens, bien évidemment arabes, qui viendront nourrir ce croisement de culture entre l'hébreu et l'arabe. Et alors, nouveau scoop aussi, c'est que ce projet-là va être présenté lui aussi au prochain Festival d'Avignon, dans une chapelle.
Ah, mais je vois que...
C'est chaud, hein, ça date d'hier soir.
Mais hier soir, vous avez beaucoup travaillé, j'ai l'impression.
Non, mais Rodolphe m'appelait parce qu'il venait de travailler avec Cadio, Vincent Baudrier et Hortense Archambault. Il m'annonçait ça, donc les directeurs du Festival d'Avignon, il m'annonçait ça, bien sûr, pour nous, c'est que du bonheur, parce que c'est aussi une reconnaissance, bien évidemment, qui va avoir une portée internationale. qu'on n'est pas capable, nous, d'avoir. Mmh. Mais voilà, ça fait plaisir d'être à l'origine de ce projet-là.
Et justement, une dernière étape qui va se rapprocher du Festival d'Avignon, on sera à peine 2 mois du début, ça sera le 18 mai,
ouais,
c'est le Velvet de Rodolphe Burger.
Ouais, alors, c'est vraiment une proposition que j'ai fait à Rodolphe, qui voulait pas au début vraiment, puisqu'il sortait lui-même d'un grand parcours Velvet qui l'a nourri énormément depuis la Factory d'Andy Warhol. Et c'est marrant parce que le week-end dernier, j'ai réécouté le dernier disque édité en 2005 de Cat Autonomous, ça s'appelle EPZ. On sent bien d'ailleurs le passage de Cat Autonomous au travail en soliste de Rodolphe, et avec déjà un univers Velvet invraisemblable de la part de Rodolphe. Et en même temps, c'était, je crois, un vieux fantasme de Rodolphe, puisque il se trouve qu'il y a quelques années, à l'initiative de Václav Havel, qui était alors président de la Tchécoslovaquie quand elle existait, fan du Velvet Underground, il avait invité Rodolphe à Prague pour travailler avec des musiciens hongrois, tchèques, autour du Velvet américain. Mmh. Alors c'est Nick Cave, Kale, Nico, Laurie, j'en passe, c'est les meilleurs. Mmh. Et c'est sûr que c'était resté dans la tête de Rodolphe, et puis on a écouté, on a énormément échangé là-dessus, on a énormément écouté de choses. Et puis il m'a rappelé en me disant « Ok, j'y vais, on fonce ». Alors, ça va être le Velvet de Rodolphe, nourri bien évidemment par ses propres influences, ses propres compositions, ses rencontres, et puis les rencontres existantes et celles qu'il n'a pas faites, bien évidemment. Alors, on peut pas dire encore, il y a quelques musiciens dont on sait qu'ils seront présents, je pense à Jeffrey Burton, le guitariste d'Arnaud, qui sera là. Je vous le dis parce que ça date d'hier également. Rodolphe a rencontré Nick Cave.
Oui, alors moi je suis le feuilleton depuis 6 mois.
Alors il a rencontré Nick Cave. Bon, pour le moment, ça paraît pas. La piste paraît tiède parce que bien évidemment entre les rencontres, la façon de se humer entre musiciens, c'est un milieu quand même très particulier. Les projets des uns et des autres, la volonté de Rodolphe de construire ça sur une démarche artisanale, puisque Rodolphe, bien évidemment, veut sortir à partir de chaque projet, il veut sortir des CD qu'il conçoit à partir de dernière bande, sa petite maison de disques très artisanale, puisqu'il enregistre chez lui dans son village natal à Sainte-Marie-aux-Mines, où il a d'ailleurs créé un immense festival. Donc on ne sait pas encore qui vraiment sera présent. Donc Nick Cave a été contacté, ils se sont vus, donc à suivre. Dans tous les cas, il y aura des musiciens comme Burton, il y en aura d'autres. Mmh. Je sais que Rodolphe veut absolument une voix féminine. On a fixé le champ du possible. Il y en a trois. Il y a Jeanne Balibar avec qui il a déjà travaillé, bien évidemment. Mais il y a aussi Patti Smith et Marianne Faithfull avec qui il souhaite travailler. Mais c'est pareil, il faut que ces artistes-là acceptent de travailler à nos conditions. Hein, l'objectif, c'est pas de faire un zénith ou de faire une tournée internationale. Donc, c'est pas des conditions financières analogues à ce que certains d'entre eux peuvent vivre dans l'industrie musicale. Mais ce qui est sûr, c'est que cette soirée Velvet, qui est nourri bien évidemment par la Factory d'Andy Warhol, par la jeunesse de Rodolphe. Et c'est un espèce de fantasme qu'on va réaliser. Les choses vont se préciser de mois en mois. Mais je sais qu'aujourd'hui, Rodolphe est totalement engagé sur ce projet. Il y tient énormément. Et il y tient tellement que ce projet-là, qui va être créé chez nous, à 7, va servir de rampe de lancement à sa diffusion, puisqu'il souhaite le présenter au Festival de Sainte-Marie-aux-Mines chez lui. Je pense qu'on fera un certain nombre de concerts en France. Voilà, c'est une aventure et un voyage assez formidable.
Ben, merci beaucoup, Yvon. De toute façon, avec Divergence, on aime beaucoup Rodolphe Burger, on aime aussi votre travail à la scène nationale de 7. Donc, on ne manquera pas de vous suivre. Et justement, pour clore cette petite séquence, c'est un catonoma qui vient illuminer les ondes de Divergence FM.
Merci.
Bonsoir,
Yvon. Bonsoir. Why is this bedroom so cold? Turned away on your side. Is my timing that flow? Our respect runs so dry. Yet the stillness appeal that we've kept through our lives. When love, you tear us apart again.
Et c'était donc une reprise de Joy Division par Rodolphe Burger. C'était pas Katonoma exactement, mais c'est Rodolphe en solo. Et Laurent Joyeux nous a rejoint, directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma, pour évoquer une opération en Languedoc-Roussillon. Première question, t'aimes bien Rodolphe Burger ?
Tout à fait, c'est ma génération.
Ouais, c'est ta génération. Tu disais que t'avais fait venir Olivier Cadio il y a quelques temps.
Ouais, avec Anne James, là. Et puis c'est vrai que cette relation, bah, les films de Pierre Alféri aussi, on les a montrés. Ouais. Tout ce croisement entre cinéma expérimental, expérimentation musicale, poésie sonore. Oui, c'est des lieux dans lesquels je me sens vraiment très bien. Ouais.
Mais Cadio, comme invité du Festival d'Avignon 2010, ça peut être bien pour beaucoup de gens.
Artiste associé, ouais, d'artistes associés avec Marc Thaler, ça va être beau.
Et puis là, t'as vu, là, autour de poésie sonore et de tous ces croisements, là, il se passe vraiment des
choses. Ah, mais ça prend vraiment, la sonorité a pris une très belle ampleur à Montpellier, qui fait écho à celle de Actoral, de Hubert Cola à Marseille. Ouais. Et là, aujourd'hui, on peut dire que le sud de la France vit aux couleurs de la poésie sonore. Et tu as participé aussi à cet élan à Montpellier.
Et oui, en 2000, quand j'étais tout petit.
Et tout un temps.
Et maintenant que tu es grand, tu es directeur et les gens te parlent avec respect, monsieur Laurent Joyeux. Et c'est une opération, c'est le troisième volet de l'opération Raymond Depardon Languedoc-Roussillon, après Alès et Perpignan. C'est un grand final qui nous attend à Montpellier.
Et oui, un feu d'artifice autour de l'œuvre de Raymond Depardon, donc notamment avec ses expositions qui sont en plein montage. On choisit les couleurs, multicolores là pour Ville, donc au pavillon populaire, puis ensuite au Carré Sainte-Anne. Et concomitamment, une programmation de films avec les cinémas diagonales. Et cinq rencontres en partenariat avec Arte Action Culturelle, de rencontres du bon plaisir intellectuel qui permettent d'appréhender l'œuvre de Raymond mais sous plusieurs angles. Alors, je les livre un peu à l'envers. Corinne Rondeau, c'est de la conquête du paysage.
Corinne Rondeau, qu'on avait retrouvé il y a peu pendant le Salon du dessin contemporain, il y a 2 semaines, qui faisait une très bonne conférence qui accompagnait ce salon.
À partir d'une sublime, réflexion du rapport entre les peintures de paysages courbés et les photographies de Raymond aujourd'hui. Évidemment, une autre conférence de Frédéric Sabourot autour du monde paysan, Le temps retrouvé, critique de cinéma. Une dédicace de son dernier livre Paysan à Sorens, un regard croisé sur l'œuvre de Raymond Depardon avec un critique journaliste de l'Humanité et un un chercheur du CNRS sur l'aménagement du territoire. Une autre rencontre avec Maxime Schenfegel sur le moderne, le classique. Et pour débuter tout ça, le 24 novembre, une intervention de Jean-Pierre Hamel, le directeur du Festival international du documentaire. Documentaire, comment ça va, la fiction ?
Mais pour commencer tout ça, avant tout, c'est un vernissage. C'est le 5 novembre, dans très peu de temps. Ça se passe au pavillon populaire et là c'est les trois expositions photographiques. La seule qui manque et qui sera montrée à Sainte-Anne un peu plus tard, c'est justement les photos sur le Languedoc-Roussillon, mais là pour l'heure ils montrent errance, paysan et voyage
et ville.
Trois points de vue un petit peu sur ce regard de Raymond Depardon sur les villes et sur les territoires.
Alors déjà, une chose à souligner, c'est que la scénographie au pavillon populaire a strictement suivi les recommandations de Raymond, qui est venu faire une visite sur les lieux. Des cimaises ont été construites, les peintures, un certain gris a été choisi, un certain rouge pour l'expo paysan qui renvoie au rouge des McCormick. Alors là, c'est un peu technique, mais bon, des tracteurs. Et pour ville, il y a 12 couleurs. 12 capitales, 12 couleurs. Donc une scénographie vraiment passionnante à mettre en place. C'est les trois dernières expos de Raymond.
Et, tu veux dire qu'au pavillon populaire, il y a eu une vraie scénographie cette fois?
En tout cas, celle-là sera, je l'espère, magnifique.
Bon, ils pourront s'en resservir pour le reste. Ça ne leur fera pas de mal. Ce vernissage justement attend le public à partir de 18h, donc là c'est le lancement de toute cette grande opération. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes content des deux premières étapes ?
Ah oui, à Alès, ça a été vraiment un succès, je crois qu'il y a plus de 20 000 visiteurs de mémoire. On en a parlé jusque dans les Cévennes et la Lozère, puisque à l'accueil, ils avaient la possibilité d'une certaine traçabilité des visiteurs. Et là, on se rend compte encore aujourd'hui, on en a parlé, que la manifestation fait écho sur tout le territoire, justement, encore dans les Cévennes, dans le Gard, dans l'Hérault, à Perpignan. C'est une seconde étape qui a été plus timorée, dans la mesure où l'investissement de la ville lié aux événements politiques, à savoir les élections, n'a pas permis d'explorer au maximum le travail, n'a pas permis de lui donner son expansion. Mais c'est vrai, comme tu le disais, on finit par un feu d'artifice à Montpellier, une manifestation de plusieurs rendez-vous, plusieurs mois. Je veux aussi souligner le travail qui a été fait autour d'élaboration de documents pédagogiques qui permettront à tous les élèves, les jeunes, les moins jeunes, de visiter les expositions avec ces documents et accompagnés par des médiatrices. Donc ça permet vraiment de... Ça répond, je dirais, pour moi, à un plaisir, à une vraie joie de montrer un travail de cette manière-là.
Ce qui est génial, c'est qu'il succède à Yann Arthus-Bertrand. Tout le monde, comme ça, en a fait des tonnes. Yann Arthus-Bertrand, ce photographe qui photographie aussi le territoire. Et là, on arrive d'emblée dans un autre rapport totalement. On n'est pas dans le spectaculaire, pas dans le sensationnel. On arrive vers quelque chose qui est au plus proche du réel et peut-être au plus proche de nous, finalement.
Bah oui, entre Yann Arthus-Bertrand qui prend son hélicoptère et Raymond qui prend son camping-car.
Ah, tu veux dire qu'il y a un artiste de gauche?
Je dirais qu'il y a un petit dé. Raymond, il a une approche, il va voir les gens, ça fait 10 ans qu'il les voit, ou 20 ans ou 30 ans qu'il va rencontrer les mêmes gens pour faire un documentaire ou des films documentaires d'une si grande beauté, qu'il les côtoie. Et, bon,
il est quelqu'un qui vient de la terre aussi, vraiment.
Ah oui, c'est pour ça que tout un tas de... Finalement, l'expo, puis le trajet qui sera proposé à travers les films, les expositions et paysans, plus les conférences, oui, renverront à sa propre biographie. Hein, c'est un paysan, et puis moi, c'est ce que j'ai tendance à penser, c'est qu'il creuse le même sillon. Hein, c'est un vrai paysan, même dans son travail.
Ouais, c'est un peu comme toi, Laurent. Toi aussi, t'es un vrai paysan le dimanche.
Oui, tout à fait.
Mais Arthus-Bertrand, il va voir aussi les bonobos, les pingouins, c'est régulièrement.
Ouais, mais bon, il les éclate avec un hélicoptère, d'un coup de grande balle dans la gueule. C'est quand même un petit peu limite au niveau écologique.
C'est tchic-tchic la chaîne.
Raymond, il a fait un boulot qui était montré d'ailleurs à la Fondation Cartier en début d'année, autour de filmer la, il s'appelait filmer la parole. Il a rencontré des paysans du monde entier, mais qui perdent leur terre justement, hein, qui sont en train de perdre. Et donc ça peut être effectivement des Yanomami comme des paysans. Il y a à peu près, à partir des mêmes, je dirais, questionnements, il y a quand même une approche totalement.
En tout cas, ce qui semble extrêmement vrai et comment dire, franc, c'est son amour pour le territoire du Languedoc-Roussillon, parce qu'il l'a réaffirmé plusieurs fois, et on ne doute pas de sa franchise à ce niveau.
Oui, non, c'est pas du tout quelqu'un qui va raconter des sornettes, et surtout, il a une relation, je dirais, affective avec le territoire, puisqu'il il a vécu où il avait une maison à Lodève, il s'est marié à Montpellier, il a à nouveau une maison sur le bord de mer, et je crois qu'il a exactement, il voit ce qu'on y aime nous ici, à savoir de certaines lumières, une certaine authenticité. Et ben oui, les week-ends, on va tous en Lozère ou en Aveyron et on aime notre territoire, on aime sa lumière, on aime ses soleils couchants d'hiver, ces magnifiques arbres en ce moment. Tu sais que les arbres sont d'une beauté sans nom en ce moment en Lozère. Faut aller les voir, hein, ça fait du bien, les beaux rouges.
Laurent Joyeux, merci beaucoup. Raymond Depardon en Languedoc-Roussillon du 6 novembre au 31 janvier et vous êtes tous conviés au vernissage public le 5 novembre au pavillon populaire, tout simplement. On enchaîne avec un morceau, c'est Ludo à la programmation musicale. Qu'est-ce qu'on écoute, mon cher Ludo ?
On va écouter The Heavy, c'est le deuxième album d'un groupe soul rock, on va dire, sur le label Counter, qui est une division de label Ninja Tune.
Un groupe soul rock.
Une autre division.
Soul rock.
Soul rock.
Soul rock.
D'accord. Yeah, bébé.
On écoute, tu verras, tu vas comprendre.
Ok.
But I know just what you're running from, and what
bon ça. Il y a du Curtis ça, hein. Dans ce grain de voix.
Il y a du Curtis dans la voix de Swabi, chanteur de The Heavy. Magnifique album, hein. Vraiment là pour le coup, du début à la fin. Ouais, peut-être le dernier morceau.
Ouais, d'accord, j'ai compris.
Il est chroniqué hein, dans le Let's Music qui va sortir. The Heavy, donc, c'est déjà dans les bacs hein, le 2 octobre.
C'est pas une exclu, c'est une ça nouveauté. Va.
Très bon. On retrouve un homme engagé, un homme qui s'est attaqué à la critique de plein fouet avec son exposition Fonction Critique. C'est Manuel Fada qu'on a déjà écouté plusieurs fois sur les ondes de Divergence FM. Salut Manuel.
Bonjour Vincent. Je piaffais d'impatience à l'idée de vous retrouver, mon cher.
Ben nous aussi.
Depuis mes Cévennes profondes.
Exactement. Je sais que depuis tes Cévennes profondes, tu n'arrêtes pas d'être actif, tu n'arrêtes pas de continuer à t'engager.
Exactement. Je continue toujours et j'ai cette ligne bille en tête, comme on dit.
Et là, tu as pour Aperto, associé deux champs qui sont assez proches, parce que tu es aussi un chercheur, tu es quelqu'un qui fait un vrai travail de recherche et autour notamment de la critique. Voilà. Et là, à un moment donné, comment on peut essayer de la mettre en forme dans un rapport d'exposition?
Ouais, dans une exposition. Je pense qu'on peut se tutoyer. Je vais d'abord te remercier de bien vouloir relayer l'information, parce que l'exposition, en l'occurrence Fonction Critique, dure jusqu'à samedi, et donc est ouverte tous les après-midi de 14h à 18h. Et donc je vais tenter de faire rapide, en fait, d'expliquer un petit peu ce dont il s'agit pour l'audience. Donc je préviens que je vais rester quand même assez généraliste. Hein.
Oui.
Voilà. Donc d'abord, l'exposition, je dois dire, a consisté donc à réunir non moins de 18 artistes s'exprimant avec des médiums différents, sculpture, photographie, dessin, vidéo, autour d'une idée, ce qui est celle en fait de la fonction critique de l'art. Et dans un contexte assez particulier qui est que depuis les 10 dernières années, donc après ce qu'on a appelé l'échec des avant-gardes, l'idée de la fonction critique et de l'art critique, et même celle d'art politique à laquelle elle est liée, a fait l'objet de beaucoup de recherches. Voilà. Alors donc, la question que tout le monde se pose, j'imagine, c'est pourquoi ce titre et pourquoi la fonction critique? Donc en gros, si vous voulez, à l'origine, il y a des entretiens que j'ai menés dans le cadre de mes recherches en fait sur les dimensions sociales et politiques dans l'art contemporain.
Ça, il s'agit de ton travail de thèse.
Voilà, exactement. Voilà. Et grosso modo, parce que là, je tranche un peu dans le vif, les artistes que j'ai rencontrés, et je ne vais pas citer leurs noms parce que ce serait trop long, la liste est vraiment trop longue, mais préféraient parler de positions critiques et de dimensions politiques plus que d'un art politique. Et qu'ils assumaient vraiment cette position qui était à la fois esthétique et à la fois éthique, on va dire. Voilà. Avec cette volonté de mettre en évidence leur position critique, alors sur la politique, sur l'économie, sur la société de consommation, et puis sur différents sujets, même l'art lui-même.
Mais voilà. Ça c'est manifeste dans leurs œuvres ou dans leurs discours ou...
Alors c'est manifeste à la fois dans leurs œuvres et à la fin dans leurs discours, mais avec cette avec ce petit bémol qu'il faut apporter sur l'art critique, hein, puisque généralement on pourrait s'attendre à quelque chose qui soit un petit peu d'un art un peu coup de poing, un art frontal, un art qui envoie dans les orties, hein, voilà. Et donc en l'occurrence là, il n'en est pas vraiment question. En fait, il s'agit vraiment de positions relativement subtiles sur la manière de critiquer justement et de prendre position politiquement. Voilà. Et je dois rappeler quelque chose d'important, c'est que donc l'origine de cette expo, donc c'est bien à la fois ces entretiens que j'ai menés, cette recherche, mais aussi une invitation donc du collectif Aperto, dans lequel on expose la galerie éponyme, voilà, et avec lequel donc j'ai travaillé et qui m'a été d'une grand soutien en fait à la fois morale et technique.
Mais outre les œuvres exposées, il y a eu aussi un cycle. Enfin, il y a eu des conférences.
Exactement. Alors, il y a eu une conférence que j'estime assez importante, puisque un des buts de l'exposition était finalement de créer une situation, hein, au sens plein du terme, pour contribuer à réfléchir sur la fonction critique de l'art. Et pour ce faire, nous avons invité deux théoriciens Aline Gaillet, donc, qui a écrit récemment un livre « Quelle critique artiste pour une fonction critique de l'art à l'âge contemporain ?» et Sébastien Bizet, qui est un historien de l'art, qui travaille aussi sur l'art politique, l'art relationnel et les pratiques autonomes. Voilà. Et on a fait aussi quelque chose qui me semblait aussi important, mais qu'on a un peu dissocié de l'exposition. C'est une projection du film de Peter Watkins, La Commune, voilà, aux Beaux-Arts de Montpellier, avec une présentation. Et bon, effectivement, c'est un film très long parce que c'est un film qui dure pas loin de 6 heures. Voilà, donc c'est une vraie Peter performance autour d'une expérience sociale et politique très importante.
Aujourd'hui, toi, comment tu te positionnes entre ce désir d'être dans la recherche, d'une part, et d'autre part, d'être dans une forme de posture de commissariat d'exposition?
Alors, disons que je pense que là, il faut être vraiment, faut dissocier un peu les deux, parce que c'est évident que d'un côté, il y a la position du citoyen Manuel Fadat, avec ses prises de position, ses engagements, et puis de l'autre côté, la position un peu du chercheur. Évidemment, les deux sont liés, mais pour cette exposition-là, en fait, il ne s'agissait pas, si tu veux, de réunir, en fait, un ensemble d'œuvres critiques qui seraient idéalement critiques, hein, et qui seraient un espèce de manifeste donc avec une seule voix qui affirmerait il faut être critique, etc., etc. Non, là c'était vraiment lié aux entretiens, et un des processus particuliers de l'exposition, c'était d'inviter essentiellement des artistes avec lesquels j'avais été en contact précisément, et de mettre en évidence qu'il y avait effectivement une diversité d'approches formelles sur le lien entre la forme et le contenu concernant ces prises de position critiques.
Merci beaucoup Manuel, on essaiera de relayer, tu sais, le plus souvent possible activisme.
Je fais moi-même une petite note, hein. Ce qui est important, c'est que donc l'exposition va se terminer le 31, que j'invite vraiment les spectateurs à venir voir ces œuvres qu'ils n'auront pas l'occasion de voir, de sitôt. Il y a vraiment 18 personnalités et 18 personnes à découvrir, et j'invite les gens à venir faire l'expérience critique avec eux et de voir en fait ce dont il s'agit exactement.
Donc c'est jusqu'au 31 octobre, pressez-vous tous à Aperto à Montpellier, c'est jusqu'à samedi, c'est l'exposition Fonction Critique. Merci beaucoup Manuel et à très bientôt.
Mais c'est moi qui vous remercie tous, l'équipe de Divergence.
Merci. Et on enchaîne, alors là, sans transition, avec quelque chose de très léger, c'est Sporto Cantès, un groupe qu'on connaît bien, on les avait reçus l'an passé avec un live, c'était pour le Montpellier à 100%, ils nous avaient délecté comme ça de leur présence sur le plateau assez délirante.
D'excellents clients.
Ouais, d'excellents clients radiophoniques. Et c'est notre chère Hélène, Tati Hélène, notre reporter embarquée comme ça, qui part tous les mois à la recherche d'invités. Quelquefois c'est raté, quelquefois ça marche. Et là, elle les a trouvés. C'était à l'occasion de leur concert au Rockstore d'il y a quelques temps, du 10 octobre. Et elle leur a fait un questionnaire un petit peu thématique autour du culinaire et du lien « Qu'est-ce que vous aimez manger, les Sporto Cantès ?»
Alors, Sporto Cantès, bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est une interview culinaire ce soir.
D'accord.
On va manger.
D'accord.
Donc, est-ce que vous aimez manger, les gars?
Oui.
J'adore manger.
Vous aimez manger.
La chatte des choux, des champignons.
J'aime bouffer les chattes.
Votre spécialité, ta spécialité en cuisine, c'est quoi?
Je crois que c'est le pain de viande.
Le pain de viande?
Ouais.
Raconte-nous un peu ça.
Beaucoup mieux aux tomates.
Beaucoup mieux le dauphin.
Aussi. J'ai fait le dauphin.
Moi, c'est les œufs brouillés.
Ah d'accord, tu connais pas plus que ça, Nico?
Si, je fais du poulet curry là.
Ouais, c'est bien ça.
Ouais, je maîtrise ça, les smoothies aussi. Vas-y, Tati, continue.
Ok. Tati. Vous avez un péché mignon, vous? Qu'est-ce que vous avez?
La coquille Saint-Jacques.
Au niveau de la nourriture,
péché
mignon.
Ça, toujours.
Je crois que c'est les escargots de Bourgogne.
Moi, la pêche.
Cuisinez comment, alors?
Ou l'abricot.
La persillade basique.
C'est quoi, basique, c'est quoi?
Persillade.
Voilà.
Ah, persillade.
Ouais, l'aioli, j'aime
bien. Jambon, fromage.
Et j'aime bien aussi le truc vert, là, le pesto.
Pesto.
Dans les pâtes au pesto, c'est bien.
Très bien.
Moi j'aime le truc rouge là, le ketchup, pas le ketchup.
Attends, mais arrête.
Non, je vais me mettre à ton niveau en fait.
Bah, fais ce que tu veux.
Je me mets à ton niveau. Je me mets au niveau canto.
Ça va, je me mets au sportif. Oui, alors au niveau culinaire.
Vas-y, alors, qu'est-ce que je. Ouais, vas-y, au niveau culinaire.
Oui, j'aime beaucoup aller au Thaï. J'essaie de quelques cuisines thaïlandaises.
Pas mal.
Comme le riz à sauce soja, aigre douce. C'est quelque chose d'assez subtil, l'aigre douce.
Oui. Est-ce que vous êtes fast-food ou pas?
Très peu. Par obligation.
Malheureusement, oui, pour les enfants. Parce que c'est bon pour les dents, les os, tout ça. Donc on est obligé de les booster.
Moi, j'aime bien comment leur viande se préparer, surtout.
Ouais, d'accord. Est-ce que vous êtes OGM ou pas?
Tout à fait.
Ah, mais complètement.
OGM, plus PSG.
Vous êtes carrément modifié.
Ah, mais moi, José Bové, moi, j'adore le maïs transgénique. Hein. Franchement, c'est bon pour tout. J'ai des enfants super, ils ont trois bras, tout ça. Non, mais José Bové, il m'énerve, donc je suis pour l'OGM. D'accord. Je suis de droite.
D'accord. Tu
vas t'attendre. Ouais, carrément, moi je suis alternative libérale.
Aïe, aïe.
Ça fait mal, hein.
Ouais.
Non, je déconne.
Non, moi non.
Non, lui non, mais moi je déconne un peu, on va dire.
Est-ce que la nourriture a été une source d'inspiration pour la composition de mon morceau?
Non, space cake. Moi j'en ai mangé, hein, tu sais quoi.
Et pour quel morceau alors? Tu veux faire du space cake et ça
tous. Va Tous. Vas-y. À toi, Benjamin.
Non, c'est des pâtes.
Pour la ouais, des pâtes. Des bobounes. Sérieusement, il y avait un petit resto qui était pas cher, mais c'était notre cantine. On foutait la merde, on déconnait, bon bref. Et c'était Boboon, on a mangé pendant tout l'album, on a bouffé là-dedans.
Ouais.
Et donc après, il y avait une espèce. Ils mettent des trucs un peu, du glutamate, tout ça.
Ouais,
c'est pour ça que le tempo est redescendu un peu.
Ah, je gros, gros, c'est vermicelle, c'est en condensé, vermicelle, soja, sauce de nems, salade, carottes râpées, de la.
Des fois on prenait du poulet dedans.
Ou du poulet, ou des fois des brochettes de poulet à la citronnelle.
Et beaucoup de glutamate.
Et de la saucisse taille.
Voilà. Bonjour madame, ça va, bonjour les artistes. Un apéritif. Prenez les trucs à la sauce piquante là, les. Ah, c'était bon ça, mais on dormait après. Donc, d'où le tempo.
Ah oui, exactement.
Putain, on dormait grave.
Bon, je crois que. Moi, j'étais là derrière la machine et tu l'as. Libé, ouvert ouverte au sein. J'étais là. Et du coup, là, ça te fait quoi? J'ai dit bon, ok.
Et continuons.
Oui, maîtresse.
Alors, si vous deviez associer un plat à vos morceaux.
Je vais t'expliquer, c'est très simple. Le premier titre qui est Concrete, c'est les carottes râpées. Le deuxième titre, c'est la laitue, c'est Whistle. Le troisième titre, dans Liquid. Le troisième titre, c'est Whistle, ça veut bien.
Carbonara, on arrive à la carbonara là. Roman's Life, la pizza.
Roman's Life, c'est forcément. Non, les escalopines avec le
citron. Et la gelati aussi, la glace.
Bien.
Après,
Six Song.
Les tapas.
Oh, Six Song, c'est les galettes.
Les tapas.
Et la plage, les gâteaux. Ah, Six Song, les scouts, les gâteaux de scouts, quoi.
Ouais, les gâteaux de scouts, le sable. La Légion.
La Légion, un peu. Dans la troupe, y'a pas de gens de bois.
Des imposteurs.
Ça c'est pas nouveau, on assure.
Bon, qu'est-ce qu'on voit boire quand on écoute Porte Contesse?
De l'eau pour moi. San Pellegrino.
Ouais.
Bon, avec un peu de GBH dedans.
On boit.
Du muscat.
Du liquide.
Du liquide de ralentissement.
Bonne réponse.
Bah, ouais. Ok, très
bien. C'est pour ça que la musique est liquide.
La dernière.
Pour la route.
Alors votre bonne petite adresse de votre quartier.
Le Boboon. Pour lui, le Boboon.
Ouais, le traiteur chinois en bas de chez moi.
Et moi, pour chez moi, qui est à Pantin, le kebab chez Ismir.
Très bien, bah voilà, c'était toi.
Très bien, et j'aime aussi la banane.
Porto Cantas, on vous a dit, c'est des très bons clients radiophoniques. Alors, c'est sûr que, à côté de nos mardis miam miam, qui restent de façon, toujours dans une forme d'excellence, en tout cas culinaire, le kebab de Smir à Pantin, détonne un petit peu. Et son sacré Boboon. Il est l'heure d'écouter le coup de cœur de Manu. Manu Plaza, c'est notre programmateur musical adoré à Divergence FM, qui a l'honneur de nous faire la technique, durant la régie, durant toutes nos émissions. Et on lui donne comme ça une petite petite pastille, une petite fenêtre ouverte vers ses goûts.
Et juste avant de cette fenêtre ouverte, on précise que l'un des deux Sporto Cantès sera le 10 novembre à la Secret Place, tout à fond pour une disco punk party aux côtés de notre Alex Terror National dans le cadre de l'excellent festival à 100%.
Et merci de cette précision, parce que double précision, évidemment ça tombera un mardi. Et ce mardi-là, ça sera une émission spéciale, on ne sera pas ici en studio, mais on aura à peu près la même équipe à l'extérieur. Le lieu est encore à définir.
À l'extérieur.
Et là, on aura justement Nico Canto, cette partie du binôme Sporto Cantès qui sera à notre micro en direct.
On va voir
si
dans
deux semaines.
Il est aussi drôle tout seul.
Oh, d'après moi, on l'intimidera pas comme ça, je pense. Qu'est-ce qu'on écoute, Manu ?
On écoute pas du tout une exclue parce que l'album est sorti le 20 octobre, c'est-à-dire il y a quelques jours à peine. Je comptais faire en fait une chronique un peu vieux réac, un peu comme ça, vieux râleur. Et en fait, je m'aperçois que je suis un peu dans le ton puisqu'on parlait tout à l'heure de Génération avec Laurent Joyeux qui parlait de Catonoma, tout ça. Et moi, j'ai choisi le retour de vieille gloire du post-punk. Il s'agit de Icon the Bunnyman. Qui connaît Icon the Bunnyman ici? Tout le monde,
sûr,
évidemment.
Je te signale que il y en a dans le prochain Mardi Miam Miam.
Parfait.
Moi, je suis sorti avec la sœur du chanteur. Hein.
Alors, pour les plus jeunes, Icon the Bunnyman, c'est un groupe qui est né en 78, il y a quand même 31 ans, hein, qu'ils ont sorti, là, c'est leur 11e album qui s'appelle Fountain, qui est annoncé par Ian McCulloch, l'irascible chanteur du groupe, comme leur meilleur album depuis Ocean Rain, c'était en 84, une paille quand même. Celui d'avant était aussi leur meilleur album depuis Ocean Rain, donc c'est une constante chez eux. Et alors moi j'ai écouté un peu, j'ai survolé cet album qui est sorti il y a une semaine. Et c'est pas vraiment leur meilleur album depuis Ocean Man. Parce qu'en fait, le problème de Icon the Bunnyman, c'est qu'ils ont toujours couru après le succès de. Enfin, ils ont jamais compris pourquoi des groupes comme Cure ou U2 remportaient un peu les suffrages du grand public et pas eux, alors qu'ils s'estiment bien meilleurs que tous ces groupes-là. Et du coup, sur cet album, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire du U2 carrément. Ça sonne vraiment très U2, donc pas forcément très intéressant, sauf un titre qui lui sonne plutôt Smith, pas Robert Smith, mais les Smith. Et c'est celui que j'ai choisi d'écouter tout de suite.
Étonnamment.
Tu as bien raison.
Voilà. ça s'appelle Everlasting Never Unless, qui est un beau pléonasme. Et on écoute tout de suite. Yeah.
Oui, c'était donc les Smiths.
En tout cas, ça donne drôlement envie de se replonger dans les quatre premiers albums de Icon de Bunnymen. Voilà.
Tout à fait, ouais.
Juste pour comprendre pourquoi ils ont sont jamais arrivés à faire un tube.
Non, c'est faux parce qu'ils ont eu des similitubes, ils ont eu des pseudo tubes.
De Killing Moon.
Bah, ils ont
Killing Moon.
Ouais, Killing Moon, ça reste.
Et qui reste le plus beau morceau jamais écrit de toute l'histoire du rock.
Non, parce que en parlant de Moon, il y aurait Marquis Moon aussi qui joue.
Ouais, exactement. Et oui, par télévision.
Qui a beaucoup influencé.
Tout à fait, en plus.
De toute façon, il y a tube, il y a pas de semi-tube, il y a tube ou rien.
C'est vrai.
Alors, il y a les musclés ou rien.
De Killing Moon, c'est quand même 10 fois moins connu que le moins connu des tubes des Cures.
Il y a les musclés ou rien.
C'est comme ça.
C'est vrai.
Will you ever be happy again?
On dirait un titre d'ailleurs des Icônes.
Exactement. Ouais. Sauf que là, c'est un titre d'une pièce qui passe au théâtre de l'université Paul-Valéry, La Vignette, dont on reçoit le directeur Frédéric Saccard. On aime beaucoup sa mèche de côté. Un homme qui aime beaucoup aussi Rodolphe Burger et Cato Noma. On en parlait tout à l'heure. Ça, c'est des gens qui t'ont influencé aussi. Non, j'ai l'impression qu'il ne veut pas répondre. Là, il devient tout blanc. Il sent qu'il est dans un traquenard. Et là, c'est une pièce qui va être présentée les 17 et 18 novembre par une metteur en scène, Sanja Mitrović. Et c'est justement, il va être question d'une identité parce que cette personne, elle est serbe. Et il est question d'identité dans sa pièce entre l'Allemagne, la Yougoslavie, une année, 1989, qui se pose au milieu. C'est une année où l'Allemagne, on sait ce qui s'est passé justement avec le mur, mais aussi c'est une année qui a été le point de départ de la dissolution de l'ex-Yougoslavie. Et à partir de là, il y a le début comme ça d'une histoire. Bonsoir, Fred Saccard.
Bonsoir. Oui.
Parle bien dans le micro.
Will you ever be happy again? Est-ce que je serai à nouveau heureux? C'était en fait la question que se posaient les Allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans le chaos dans lequel ils étaient et qu'ils avaient provoqué. Et donc Sanja Mitrović, qui est serbe, a pris cette question aussi comme question qui se pose aux Serbes à la fin des années 2000. Et donc elle fait un parallèle comme ça entre ces deux situations différentes, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et puis la situation de la Serbie aujourd'hui, avec une volonté d'essayer de comprendre les processus qui se sont passés, les processus historiques. Donc ce qui est intéressant, c'est que donc c'est un spectacle que j'ai vu à Strasbourg lors du festival Première, qui est un festival qui réunit tous les jeunes gens qui sortent d'école au niveau européen. Donc c'est des productions assez légères techniquement. Là, sur le plateau, ils sont deux, dont elle, Sanja Mitrović, et un collègue à elle, en fait un ami à elle qui est allemand et qui a à peu près le même âge qu'elle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont essayer de retrouver de comprendre donc ces processus historiques, mais pas seulement avec les images stéréotypes, mais à partir de leur biographie personnelle. Et donc, elle part comme ça de choses très concrètes. Il y a juste un rétroprojecteur sur le plateau et elle reproduit comme ça, par exemple, des choses comme son cahier d'écolière, où on voit au fur et à mesure l'histoire qui se déroule, donc d'un État socialiste où d'un coup ça bascule avec la guerre. Et lui, l'Allemand, essayant de retrouver dans sa famille des éléments aussi qui, à un moment donné, font évidemment référence à la Deuxième Guerre mondiale, comme par exemple un certificat d'arianité de sa grand-mère, etc. Et ce qui est assez beau dans le spectacle, c'est que justement, c'est pas tellement ce qui l'intéresse, c'est pas tellement, je dirais, une exploration psychologique comme ça de ce que ça fait de traverser tout ça, mais plutôt d'essayer de voir s'il y a des correspondances par rapport à, justement à ces processus historiques, mais en partant de leur point de vue très concret, très personnel en fait. C'est pour ça que elle écrit à un moment donné comment arriver à lier le personnel, le poétique et le politique. Et je trouve que c'est ça la réussite de ce spectacle, parce qu'elle aurait pu tomber juste dans quelque chose d'assez pathétique, pathos, etc. Mais là, ce qui m'intéressait cette année, puisque la programmation est sous l'aune de la question « que faire ?», donc essayer de trouver à chaque fois des spectacles qui répondent à cette question. Donc,
que faire, de poser de façon aussi générale ?
Oui, bah, c'est la référence au texte de Lénine, en fait, le fameux texte de Lénine, que faire. Et donc là, bon, ça vient de... Bon, c'est un peu long à expliquer, mais disons que c'est le programme qu'on mène avec les ateliers destinés aux étudiants sur cette question-là, pour essayer de les amener à sortir du constat et toujours de l'impuissance à faire les choses et à être acteur de l'histoire, etc. Donc cette année, on leur a posé clairement une question comme ça, explicite, que faire. Et j'ai essayé, moi, de choisir à chaque fois des spectacles qui, bien évidemment, étaient intéressants théâtralement, artistiquement, etc., mais qui aussi, justement, répondaient, pouvaient être une réponse à cette question. D'où, à chaque fois, les numéros dans le programme. Et donc, c'est vrai que stylistiquement, il y a une tonalité assez forte cette année de théâtre documentaire. Hein. Il n'y a pas de pièce de théâtre à proprement parler, comme ça, à part, et encore, même pas. J'allais dire la We Are l'Europe de Benoît Lambert. Mais parce que justement, c'est tous des spectacles qui se coltinent avec la question du réel.
Mais ça, c'est un choix de programmation que tu fais, ou finalement, il y a une tendance comme ça aujourd'hui dans le théâtre à aller de plus en plus vers ce rapport au réel et au documentaire ?
Oui, il y a effectivement un rapport comme ça en ce moment qui est assez présent dans l'ensemble des productions. Après, c'est compliqué aussi parce qu'il peut y avoir des effets de style et puis de complaisance. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est d'essayer de déceler les propositions qui sont un peu affirmatives qui sortent des éternels constats du chaos du monde, de la catastrophe, etc.
Qui sortent du constat ou de la simple question, parce qu'il y a aussi tous ces spectacles qui ne tournent qu'autour de la question, mais sans jamais affirmer quoi que ce soit.
D'ailleurs, c'est assez... Je voulais rebondir sur les deux notions de personnel et de politique, parce qu'en fait, ça m'évoque aussi ce vieux slogan assez positiviste, en fait, à la fin des années 60. Vous dites c'est personnel, je dis c'est politique. Et en fait, donc... ça rejoint peut-être aussi le cheminement du théâtre vers le documentaire, vers le réel, en fait, sortir de ce psychologisme, cette démonstration théâtraleuse, théâtralisante, pour arriver à quelque chose de plus authentique.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'aussi, je pense que c'est peut-être, en tout cas en France, parce qu'en Allemagne, il y a moins ça. Mais pourtant, le théâtre est beaucoup plus, je dirais, en phase avec une réalité sociale. Mais ça vient du fait qu'en France, on a un rapport peut-être un peu plus littéraire et sacré au texte qui fait qu'on ose peu les bousculer. En Allemagne, souvent, les textes de répertoire peuvent être comme ça ramassés. On monte un Shakespeare juste en quelques pages, mais on essaye. C'est pas pour s'amuser avec, mais c'est parce qu'on essayait de donner une lecture assez forcée du texte. En France, non, c'est souvent, on choisit un texte pour le texte. Je dirais que pour schématiser, en Allemagne, souvent, il y a d'abord une problématique, une question, et ensuite, on choisit le texte qui va nous permettre d'alimenter cette question. Et donc, peut-être que du coup, en France, malgré le... Enfin, à cause de la poussée comme ça qu'il y a en ce moment à essayer d'être en prise... Du coup, l'échappée, elle vient justement de prendre un matériel qui est un matériel documentaire, en fait, et pas de forcer les textes. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Cette année, on va travailler, nous, sur la question que faire, mais en obligeant les étudiants, par contre, à travailler sur des textes du répertoire. Donc, partir de la problématique, mais d'essayer de les forcer dans ce sens. Déjà, on a présenté un spectacle qui était issu de... des ateliers de l'année dernière, Monsieur de Pourceaugnac de Molière, donc texte du répertoire, mais les étudiants là l'ont forcé vraiment ce texte en faisant des incises avec des textes philosophiques à l'intérieur, et ils ont forcé la lecture sur Pourceaugnac, donc c'est ce provincial qui arrive en ville et qui est raillé par tout le monde comme la figure de l'étranger aujourd'hui, donc comme un peu allégorie comme ça, enfin symbole plutôt de la figure de l'étranger dans la société sarkozyste dans laquelle nous sommes.
À l'opposé de ces pièces classiques, il y a aussi au mois de novembre des choses qui vont paraître très exotiques aux spectateurs du théâtre classique ou contemporain. Il y a la conférence théâtralisée de Gérard Noiriel Historien de l'immigration et de l'identité, qui n'est pas précisément un acteur, hein, oui. Qui est plutôt un universitaire sérieux, oui. On va dire. Comment ça se passe, ça ?
Alors, en fait, ça, c'est parce que je suis tombé sur un livre qu'il a écrit récemment, aux éditions, publié aux éditions Agone, qui s'appelle « Histoire, théâtre et politique ». Où il fait justement une critique assez une critique assez virulente comme ça de l'état du théâtre français, notamment en critiquant les metteurs en scène qui se prétendent politiques mais qui ne sont pas au courant des ne sont plus en phase comme Brecht pouvait l'être, dit-il, avec les recherches en sciences sociales et qu'il y a comme ça une la recherche théâtrale, finalement, n'est plus en connexion avec la recherche en sciences sociales, alors que les grandes avancées, notamment chez Brecht, correspondaient à une connexion avec, justement, la nouvelle historiographie à l'époque.
Et la sociologie allemande de Weber.
Voilà, et donc, du coup, je me suis intéressé un peu à lui, puis je me suis aperçu que, justement, il essayait d'aller à l'encontre de ça. Il avait créé une association qui essayait de réunir comme ça des metteurs en scène et des chercheurs. Alors bon, je crois qu'il en est au début. Mais lui-même s'y est mis, donc. Et c'est pour ça qu'il a fait un spectacle, enfin, où il est sur scène. Il y a un metteur en scène qui s'appelle Jean-Yves Pénariel, sur la première figure du clown noir en France, qui s'appelait Chocolat. Qui a donné l'expression ensuite « être chocolat », hein, donc qui signifie « être berné »,« être eu ». Et en fait, c'était un clown, le premier clown noir donc, qui était dans un duo avec Fouti, le clown blanc. Et à travers ce duo de Fouti et Chocolat, était en fait évidemment était véhiculé tous les stéréotypes qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc on est autour des années 1860, au moment donc des colonisations, etc., tous les stéréotypes sur les Noirs. Et donc lui est sur scène, mettant en perspective certains numéros de Chocolat qui sont repris par un acteur noir. Et voilà, donc on a les deux. Donc c'est pour ça que c'est une conférence théâtralisée et une tentative assez intéressante d'essayer de voir comment l'histoire peut aussi être en connexion avec le théâtre. Mais...
Et ça, c'est donc le 24 novembre à 19h15.
Et c'est dans le cas que je précise d'un colloque, en fait, qui est organisé par Anthony Mangeon sur en littérature, donc sur les mondes postcoloniaux. Et donc, c'est à travers ce colloque que je me suis intéressé à ce spectacle. Je ne regrette pas parce que c'est assez passionnant. En fait.
Merci beaucoup, Frédéric Saccard. Will You Ever Be Happy Again? Conception et mise en scène de Sania Mitrovic. C'est le mardi 17 novembre et 18 novembre, 19h15 et 20h30, au théâtre de l'Université Paul-Valéry, La Vignette. Un petit morceau, mon cher Ludo.
Oui, la chronique du mois. Alors, en fait, on va écouter le nouvel album de Echo and Bunnymen. Qui ressemble un petit peu au dernier album de
The Smiths.
Au
dernier
album de The Smiths. On écoute Abraham Inc., c'est-à-dire Abraham Incorporation. Alors, sur le papier, c'est improbable.
Ah oui, le truc qui sonne comme Caravan
tu
Palace.
Tu me laisses parler, s'il te plaît.
Le truc qui sonne comme Caravan Palace.
C'est la réunion de Krakauer, David Krakauer, clarinettiste Klezmer, très très connu. Sokol, qui a sorti un album électro, Klezmer, il y a quelques.
C'est quoi Klezmer ? Pourquoi tu dis Klezmer tous les deux mots ? Ah, d'accord.
C'est festif, quoi.
Et Fred Wesley.
Immense, Fred Wesley.
Immense tromboniste.
Parce qu'en fait, voilà, c'est là où on découvre que Fred Wesley est en fait Klezmer. Le premier Klezmer noir de l'histoire.
Ah, vous êtes pénible, on écoute, on parlera peut-être après. Merci Manu. Excuse-moi. We'll be right back.
Abraham Inc. C'est vrai que ça.
C'est vrai que vous avez coupé ça comme des
salopards. Non, on n'a pas coupé ça parce que il nous reste deux minutes. Il nous reste deux minutes et c'est vrai que c'est peut-être pas tout ce qu'on voulait entendre maintenant, mais on a envie d'entendre surtout Alex Terror.
C'est un
Terror
très
maintenant.
Très bon disque. Vas-y Alex.
Ouais, comme j'ai droit aux 3 minutes à la fin, et puis comme ça, en fait, c'est pratique parce que quand vous débordez, comme ça, j'ai pas 3 minutes, et puis c'est moi qui morfe, quoi. Donc là, je vais en prendre 6 pour parler de la soirée de vendredi soir au Cinémède, en fait. À savoir que tous les ans, en fait, Cinémède organise une petite soirée en enfer, ils appellent ça. Donc, hommage aux séries B, aux séries Z. Et là, en fait, ils se sont. L'année dernière, c'était Enzo Castellari, donc un immense réalisateur de polar et d'action italien. Donc, cette année, en fait, ils nous font une sorte de thématique espagnole, puisqu'ils nous font un panorama à côté dans la compétition du nouveau cinéma espagnol fantastique. Alors, c'est un peu dommage parce que quasiment tous les films sont sortis, et du no-cinéma et de en DVD. Donc, on aurait aimé qu'ils nous présentent un peu plus d'inédits, notamment Escalofrio, un film de vampire.
C'est le Cinémède, je veux dire, on est.
Ouais, mais bon, Enzo Castellari, c'était des films qui étaient vraiment, vraiment, en fait, invisibles depuis longtemps. Donc, ça faisait plaisir l'année dernière de pouvoir les découvrir, en plus, pour des gens comme moi qui les ont découverts dans les années 80 avec les VHS, de pouvoir les voir pour la première fois, en fait, au cinéma. Donc voilà. Et cette année, en fait, on a droit à Alex de la Iglesia. Alors, bon, j'ai rien à dire sur Alex de la Iglesia, j'adore. Sauf que là, tous les films sont déjà vus, sortis. Et bon, ça a le mérite quand même, on va pouvoir voir quand même au moins une fois sur grand écran le Perdita Durango, qui n'était jamais sorti au cinéma, qui est sorti qu'en DVD, et qui était la suite du Sailor et Lula, en fait, de David Lynch. Et c'est une suite à l'Alex de la Iglesia, donc c'est avec Javier Bardem, déjà, et, qui est fabuleux, qui fait un Mexicain, qui fait de la magie noire, et qui est à base de sacrifices et tout, enfin, c'est complètement rock'n'roll, c'est du Alex de la Iglesia, c'est fabuleux. Donc au moins, on pourra voir ça, mais... Moi, je voulais pousser mon coup de gueule parce que je suis là pour ça aussi.
Bien sûr.
C'est dommage parce qu'en fait, ils nous font un panorama du cinéma espagnol, du nouveau cinéma fantastique espagnol, sans citer une seule fois le grand parrain, à savoir Narciso Ibáñez Serrador, qui a signé que 2 seuls films au début des années 70, La Résidence et Les Évadés de l'an 2000, qui sont 2 films fantastiques fabuleux, qui sont ultra réputés, ultra confidentiels. Il y a une vieille édition René Château de La Résidence qui est sortie, et ça n'a pas été réédité depuis. Et en fait, c'est vraiment la figure tutélaire, en fait, de tous ces gens, à savoir que les Jaume Balagueró et consorts Paco Plaza se revendiquent vraiment de ce monsieur et ont notamment, en fait, se revendiquent tellement de ce monsieur que ce monsieur, qui est devenu entre-temps depuis un grand monsieur de la télévision, en fait, a produit une série télé, des histoires pour ne pas dormir, en fait, et donc voilà, avec que des réalisateurs, donc les Paco Plaza, les Balagueró.
On dit Plaza, pas Plaza.
Ouais, Plaza. Donc voilà, en fait, c'est un petit peu dommage, mais bon, on va quand même se repaître des visions dantesques de monsieur Alex de la Iglesia, et notamment de ses premiers films, Action Mutante, et tous ces films vraiment grand guignolesques et rigolos.
Merci beaucoup, Alex. À quand, Alex Terror, à la programmation du festival Cinémède? Je lance comme ça quelque chose. Ça changerait, ça ferait mal. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait, François?
Alors, la semaine prochaine, vous allez pouvoir vous délecter du magnifique repas que nous avons concocté pour vous dans le mardi Miam Miam numéro 2 avec Ariel Garcia Valdez,
qui est le directeur du Conservatoire d'Art Dramatique de Montpellier, un grand comédien et metteur en scène, et ce repas était simplement un temps merveilleux. J'espère qu'on arrivera à le traduire aussi bien radiophoniquement que à la hauteur de ce qu'on a vécu hier, parce que c'était hier justement l'enregistrement. Le mardi suivant, le mardi 10, on se retrouve justement pour l'émission spéciale Montpellier à 100%, et il y aura justement Alex Terror et Nico Canto d'Esporto Cantès. Ça sera hors les murs, dans un lieu encore à définir, le 17 novembre.
Le 17 novembre, mardi backstage, deuxième édition. Et là, il faut aller à l'exposition au Crack, puisque c'est là qu'on a enregistré ce mardi backstage, pas plus tard qu'aujourd'hui. Un vrai portrait d'un lieu atypique, à 7. Et l'exposition du moment démarre vendredi soir. C'est Étienne Bossu. Et ainsi que 2 performances vidéo. Allez-y avant le 17, avant de découvrir, ou après, une fois que vous aurez découvert, avec le Mardi Backroom numéro 2, ce lieu. Mardi Backstage, pardon. Ouais, le Backroom, c'est pour la fin du mois, vous verrez ça.
Merci tout le monde, merci à nos auditeurs et bonne soirée à tous. Petit clin d'œil. Merci Manu Plaza à la régie, Ludovic Deleu pour Let's Motive et tous nos invités à mardi prochain. Bisous. Got a trick on my sleeve, a phrase that pays. The receipt is a pressure bust pipe. Steve makes parables preach. With a beard to his knees, it's no shade for the priest. We bringin' niggas from the street. Get off your seat, stamp your feet. Come on and touch me in the...